Chapitre 77. Vincent presse Charles de le guider. Il tient à peine sur ses jambes, mais ne ralentit pas, titube, se heurte aux angles des couloirs. Il doit parfois se rattraper au mobilier pour ne pas s'écrouler, mais rien ne l'arrêtera. Sur leur parcours, Charles rassure les cochers que l'affolement de l'étrange tandem alerte.
« Me direz-vous enfin pourquoi une telle urgence ?
Vous le verrez très vite. » Sinon, vous pourrez toujours me faire enfermer.
Vincent, vous m'effrayez, je ne vous reconnais pas.
Je m'effraie moi-même.
Si je vous disais que Robert Houdin m'a parlé...
Pardon ?
Tout bonnement, votre ami s'est adressé à moi.
Cette fois, c'est Charles qui trébuche dans sa course.
Pure démence, affirme-t-il. Les membres de cette secte vous auront joué un tour. Vous avez été à la meilleure école pour savoir qu'il est facile de duper le plus affûté des esprits.
C'est ce que je me suis dit.
Et puis...
Vincent fatigue.
Et puis quoi ? C'était tellement étrange, tellement vrai, que j'ai besoin de vérifier.
Vérifier ? Vérifier quoi, enfin ? Les deux hommes entrent dans la cour et s'engouffrent dans l'entrée de l'ancienne résidence du magicien.
Vincent traverse le hall et pénètre dans le bureau en suppliant Addison de se hâter, puis prend soin de verrouiller la porte derrière eux.
Charles se rend directement devant le meuble de cartographe dont il actionne le mécanisme. Les marches se mettent en place. Il monte ouvrir le passage derrière la toile et, à bout de souffle, invite Cavell à se glisser dans le vestibule secret.
« Nous y voilà. J'espère que vous allez vous apaiser. Je suis exténué. »
Cavell entre et marmonne.
« J'ai marché sur l'Autriche-Hongrie. Je suis monté vers le ciel à la suite des trois sages. »
Il avance sans hésiter dans le bureau et se place sous le fantôme suspendu entre les poutres. La structure en fil de fer est là, accrochée dans les airs, couverte de ces voiles diaphanes qui, par leur mouvement rapide au-dessus des foules, créaient une aura surnaturelle. Vincent observe l'objet sous tous les angles et s'adresse à lui.
C'est donc à toi de me montrer le chemin. Ce que je sais est à ta portée. Le fantôme te montrera la direction.
Vous me semblez dans un tel état d'agitation, mon ami, commenta Dinson, perplexe.
Peut-être serait-il raisonnable de consulter.
Je veux d'abord savoir si ces mages sont les meilleurs charlatans du monde ou s'ils possèdent un don hors du commun.
Le bras du fantôme semble désigner une direction droit devant lui.
Charles, depuis que vous avez hérité de ce bureau, avez-vous déplacé le spectre volant ?
Jamais. Pourquoi l'aurais-je fait ?
Sans répondre, Vincent cherche à définir ce que pointe le mannequin filiforme.
On dirait qu'il nous désigne cette cloison, là, entre les deux étagères.
Addison perd son calme.
Je n'y comprends rien. Vos propos sont insensés. Vous me faites cavaler jusqu'ici sans rien expliquer. Vous parlez aux fantômes. Pire, si je vous écoute, ceux qui cherchent à vous tuer se seraient montrés courtois. Vous semblez même les apprécier. Par tous les saints, serait-il parvenu à vous endoctriner ?
Tout en s'approchant des planches qui forment la paroi, Vincent répond.
Nous connaissons-nous si peu que vous puissiez me croire capable de trahison ?
Il commence à sonder le mur. La structure semble pleine. Charles le rejoint.
Êtes-vous en pleine possession de vos moyens lorsque vous affirmez que Robert Houdin vous a parlé ?
Nous allons vite le savoir. Si c'est bien lui, il s'est exprimé à travers les voix des mages.
Serait-il médium ?
Il n'y a qu'un moyen de s'en assurer. Il m'a confié une information. Si elle s'avère authentique, il n'y aura plus de doute.
Vincent sonde encore. Il descend, il monte, il cherche, y compris au-delà des poutres qui encadrent la section. Il passe ses mains partout sur le bois avec minutie et fait sonner le mur sous ses jointures.
Rien.
Aucune encoche, aucune saillie, même minuscule, qui pourrait permettre l'ouverture d'un volet dans la paroi. Pour ne rien laisser au hasard, il s'agenouille, essaie de retirer la plainte. C'est en prenant appui sur le plancher qu'un très léger jeu dans une des lattes du parquet retient son attention. Fébrile, Vincent cherche à l'accrocher, palpe les fentes, lorsque tout à coup, il la sent se décaler. Il échange un regard avec Charles et s'efforce aussitôt de la faire coulisser. Avec difficulté, il y parvient sur quelques centimètres. Le bois, en place depuis des années, ne se laisse pas faire, mais Vincent persévère et l'ouverture finit par se révéler.
Charles reste bouche bée. « Saviez-vous que cette cache existait ?» interroge Vincent. « Je vous assure que je n'en avais pas la moindre idée. » Il n'y avait donc que Robert Houdin pour le savoir. Vincent glisse la main dans l'espace libéré et en ressort un petit paquet qu'il dépose sur le bureau. D'un sac de coton roulé sur lui-même, il tire trois carnets de notes d'apparence similaire reliés de cuir noir. Charles en saisit un et le feuillette. En reconnaissant l'écriture parfaitement formée, si caractéristique de son ami, il ressent une intense émotion. Très vite, il vérifie. Tous les carnets sont de la main même du magicien. Mon Dieu! Je suis certain qu'il m'est arrivé de voir Jean-Eugène rédiger certaines de ces pages. Il gardait toujours son carnet sur lui. Personne, pas même sa femme, n'avait le droit d'y toucher. J'ignorais qu'il en existait plusieurs. En emménageant ici, j'ai cherché dans ses archives, mais ne trouvant rien, je me suis dit que le document était définitivement perdu. Dans le volume que parcourt Vincent figurent des notes, des réflexions, des idées sur les problèmes auxquels Robert Houdin était confronté. Il tombe sur une liste de passages secrets réalisés pour diverses personnalités, suivent dans le désordre des schémas pour des numéros d'illusion ou des mécanismes de déclenchement. L'ensemble hétéroclite est émaillé de courtes synthèses apparemment relatives aux recherches qu'il menait avec ses compagnons de quête. Vincent s'arrête sur un paragraphe. « Charles, avez-vous eu connaissance d'une affaire de reliquaire exhumée dans une chapelle près de l'ancien cimetière des Innocents ?»« Tout à fait, je m'en souviens très bien. L'édifice avait été épargné lors de l'évacuation des tombes, mais voilà quelques années, de nouveaux aménagements l'ont voué à la destruction. Nous avions recoupé des archives et découvert que le précieux ostensoire avait été enfoui pour échapper aux révolutionnaires. » Robert Houdin y fait référence ici, et ce n'est pas le seul extrait qui évoque vos découvertes. Mais que lui avez-vous demandé pour qu'il vous révèle le remplacement ? Cavell lâche le texte des yeux. J'ai dit que je regrettais qu'il n'ait pas eu le temps de me transmettre tout ce qu'il savait. Je lui ai dit que j'étais perdu. Il marque un temps. Par la voix des médiums, il m'a répondu que son savoir était à ma portée et m'a indiqué où chercher. « Bonté divine !» murmure Addison. « J'ignore ce qui me chamboule le plus, la peur ou le plaisir. Je suis si heureux de pouvoir espérer qu'il soit encore présent quelque part au-dessus de nous, et tellement épouvanté que ce soit nos adversaires qui vous l'aient révélé. J'en suis là également. Cette expérience a dû vous ébranler, profondément. » Peut-être cette démonstration vous a-t-elle séduit ? Dans l'intonation de Charles, Vincent perçoit une appréhension. Il devine également tout ce qu'il sous-entend par là. Cette séance m'a bouleversé. Je ne le nie pas. Ce signe de mon maître, de votre ami, n'en finit pas de me questionner au plus profond de mon être et risque de me hanter longtemps. Mais Robert Houdin n'était pas des leurs. Je pense même qu'aujourd'hui, lui aussi souffrirait de leurs agissements. Cette confrérie cherche des trésors, comme nous. Mais pas pour les mêmes raisons. Robert Houdin, Bégel, vous et votre cercle souhaitez les protéger. C'est à cela que je me consacre avec vous. Ces gens avouent eux-mêmes vouloir s'en servir pour se renforcer. Ils n'ont que faire de ce qu'ils convoitent. Ils désirent juste l'utiliser. En tirer un pouvoir. Si j'avais rencontré ces mages en étant seul, sans doute aurais-je été émerveillé et peut-être même tenté de les rejoindre, mais je les découvre après avoir été formé par des hommes que je n'ai jamais vus se corrompre, et alors que je vous connais et que j'ai une famille. Aussi fascinant que soit leur don, cela ne signifie pas qu'ils s'en servent de manière honnête. Charles saisit les carnets et les tend à Vincent. Il vous faut étudier ces notes. Vous devez souhaiter les lire autant que moi. Vous êtes le plus à même d'en tirer ce qui pourra nous être utile. Cavell les recueille avec respect. Merci, Charles. Faites vite, mon ami, car le temps que nous avons mis à vous retrouver, leur a offert 2 jours d'avance.
Chapitre 78. Vincent n'aura pas réussi à dormir au-delà des premiers rayons de l'aube. Au petit matin, sortant de sa roulotte, il n'a rencontré que Victor, le géant qui semble veiller jour et nuit. Un calme absolu règne sur le camp. La troupe bigarrée est déjà repartie pour la capitale, dont elle animera les rues plus tard dans la matinée. Sur la prairie encore constellée de rosées, les lapins forment un cercle, vite dispersé par 2 chiens errants. La rivière coule paisiblement en contrebas. Le gardien des ambassades a salué Cavel, qui s'est isolé au sommet d'un talus voisin. Assis sur un rondin, Vincent s'est adossé au tronc d'un arbre. Il garde un œil sur le camp, tout en se réchauffant au premier soleil. C'est là qu'il analyse chaque ligne des carnets sur lesquels il s'est déjà endormi d'épuisement la veille. Page après page, bien des choses le fascinent. Il a entre les mains toutes les informations que Jean-Eugène Robert-Houdin considérait comme les plus importantes. Ce dernier ne se séparait jamais de son carnet et y couchait tout ce qu'il jugeait essentiel. Mais Vincent a également l'impression de s'immiscer au plus intime des pensées de son modèle. Ses remarques et annotations témoignent de sa façon de réfléchir. C'est une véritable plongée dans les rouages de son intelligence. Chaque note, qu'elle soit complète ou interrompue, renvoyée ou amendée, témoigne des moindres soubresauts de l'esprit de son maître. Le style est direct, sans aucune fioriture, avec pour seul objectif de faire progresser son raisonnement et de fixer ses pensées. L'ensemble est si spontané que parfois Vincent a l'impression d'entendre la voix du magicien. Certaines saillies ou commentaires laconiques n'ont à l'évidence de sens que pour leur auteur, et cependant, le plus souvent, Cavel a l'impression que les lignes ont été rédigées à l'intention d'un tiers. Robert Houdin destinait-il cet héritage intime à quelqu'un en particulier? Le nom de Charles s'impose à l'esprit de Vincent, mais l'espace d'un instant, il se prend à rêver que son maître et pu envisager de lui transmettre tout cela. Oui, à lui, le petit apprenti. Face au génie de Robert Houdin, c'est en effet ainsi que Vincent se définit toujours. Un apprenti. En est-il digne aujourd'hui? Vincent a lui aussi toujours consigné ses réflexions et ses croquis dans un carnet. Sans doute doit-il cette habitude à son aîné. Il n'a pour le moment pas même rempli son premier volume. Un jour, peut-être, lorsqu'il sera plus âgé, s'il parvient à vivre jusqu'à avoir des cheveux blancs, aura-t-il également noirci 3 tomes, ou même davantage. Chaque page apporte son lot de surprises et exige de lui la plus grande attention. La seule logique des recueils étant chronologique. Jean-Eugène Robert-Houdin a commencé sensiblement au même âge que Vincent, et a poursuivi jusqu'à la fin. Sa dernière note date de quelques jours seulement avant sa mort. C'est par celle-là que Cavel a commencé sa lecture. Robert Houdin ne devait pas se douter de l'imminence de sa mort, car il évoque simplement un futur voyage et 2 inventions à modifier. Dans les paragraphes consacrés aux études préparatoires pour des passages secrets, il est régulièrement fait mention d'Étienne Bégel. Consulter Étienne pour vérifier la faisabilité d'un mécanisme réversible. Demander conseil à Bégel pour le métal à employer. Pour chaque projet, un rapide croquis expose les grandes lignes du fonctionnement et le procédé d'ouverture. En marge, 4 ou 5 petites croix sont tracées. Les installations, qui n'en comportent que 3, sont rayées d'un trait que l'on sent parfois rageur. Vincent n'a pas été long à comprendre que ces croix sont des évaluations permettant à Robert Houdin de vérifier que son idée coche bien chacun des 5 principes qui régissent les meilleurs passages dérobés. Il n'a visiblement mis en fabrication que ceux qui le satisfaisaient pleinement. Encore une preuve de son exigence absolue. La page d'après aborde, sans condition, les affaires courantes du cercle de recherche auquel il appartenait, comme à Dinson aujourd'hui. Robert Houdin y évoque des réunions. Aucun nom n'est jamais mentionné. Chaque intervenant n'est décrit que par sa fonction. Il est ainsi question, entre autres, de l'archiviste, de l'enquêteur, du physicien, de l'architecte, du mathématicien, du théologien, de l'historien et à plusieurs reprises de l'avocat du diable. Cette dernière dénomination intrigue Vincent. À travers les divers dossiers évoqués, ce sont plus d'une trentaine de trésors qui ont été retrouvés et soustraits au pillage ou à la destruction. Emblèmes de pouvoirs oubliés, reliques, textes précieux et, bien sûr, richesses sous forme d'or ou de pierres d'exception ont ainsi été mises à l'abri. Quelques passages mentionnent cependant des énigmes restées sans réponse, dont l'une, à laquelle le cercle de recherche a finalement renoncé, rappelle les difficultés qu'a éprouvées Vincent pour ouvrir le tunnel de la cave de Flamel. Il y est question d'un armateur mystérieusement disparu en Méditerranée, dont la résidence aux murs trop épais recelait des espaces secrets. Il fut cependant impossible d'en découvrir l'entrée. Dans ce florilège éclectique d'énigmes, de projets et d'interrogations, il arrive même que Robert Houdin se soit intéressé à des faits historiques ou des faits divers étranges derrière lesquels il soupçonnait un mystère, comme le cas de ce journaliste assassiné après avoir annoncé un prochain article à sensation sur un trafic de fausses momies égyptiennes. L'ombre qui masque tout à coup le soleil arrache Vincent à sa concentration. De bon matin à l'étude et déjà l'air soucieux. Il n'a pas entendu Gabriel approcher. À contre-jour, ses longs cheveux filtrent superbement la lumière. Une sainte magnifiée dans l'aura d'un vitrail. Cavell referme le carnet. « Je tombe mal ?» demande la jeune femme. « Jamais, mais je note que, même en terrain dégagé, vous parvenez à surgir d'un coup. Vous avez un talent. » Elle rit et s'emplit les poumons d'air frais en s'étirant. « Hier soir, je vous ai écouté échanger avec vos amis. Je n'ai pas voulu m'immiscer, mais je me suis étonné qu'aucun ne vous pose une question qui me paraît évidente. Laquelle ?»« Depuis l'incendie, êtes-vous parvenu à reprendre le contrôle de la situation ?» La jeune femme fait un pas de côté. La lumière vient cette fois découper son profil, le nez droit, la pommette haute, l'œil clair comme un ciel de printemps. Sa jeunesse, sa beauté et l'énergie que Vincent saisit dans toute sa personne sont autant d'hymnes à la vie. Il ne se sent pas le droit de les ternir avec des problèmes auxquels la jeune femme ne pourra malheureusement rien changer. Trop tôt pour le dire. Et vous, vous accommodez-vous de ces conditions ? L'endroit est tellement peu ordinaire que j'en arrive à oublier tout ce qui existe ailleurs. Comment va Pierre ? Il s'inquiète de ne pas vous voir assez et se demande de quoi l'avenir sera fait. Nous en sommes tous là, pas vous ? J'ai consulté des diseuses de bonne aventure et des tireuses de cartes. Elles sont plusieurs à venir chaque soir. Que vous ont-elles prédit ? Chaque fois, des choses très différentes, tout et son contraire à tel point que cela ne veut plus rien dire. Elle m'annonce l'amour, des enfants joufflus et souvent la fortune, mais aucune n'a parlé de danger de mort. Ne trouvez-vous pas cela étonnant ? Après son expérience face aux jumeaux, Vincent ne se risquera pas à commenter les oracles, spirites ou prophéties. Il n'a plus réellement de certitude à ce sujet. Si elle se borne à vous promettre le bonheur, vous devriez les croire. Ils sourient ensemble. Vincent désigne le camp d'un mouvement du menton. J'ai appris que pour libérer une roulotte, vous et Pierre occupiez désormais la même. Gabriel rougit. Pierre se comporte de façon tout à fait honorable. Je n'en doute pas. Il fait travailler Henri, à qui un brocanteur a rapporté des livres d'études, des plumes et un cahier, et même un exemplaire de l'île mystérieuse. Comprenant que Gabriel cherche à éviter de parler de sa liaison avec Pierre, Vincent vient à son aide en changeant de sujet. On m'a dit que Stasio avait fait passer un message rassurant et qu'il serait de retour dans quelques jours. La jeune femme hoche la tête. Bien qu'ils soient enchantés de se retrouver, tous deux se contentent d'alimenter une conversation réduite aux utilités. Mais peu à peu, autre chose s'installe. Est-ce parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils se fixent avec de plus en plus d'intensité ?
Bientôt, ils ne parviennent plus à détacher leurs regards l'un de l'autre. N'y tenant plus, Vincent demande. « Pardon, mais je dois savoir, entre vous et Pierre, c'est sérieux ?» La jeune femme baisse les yeux. « Je crois que oui. Je préfère vous l'avouer. Notre bonheur lui donne mauvaise conscience alors qu'il sait que rien n'est résolu et que vous êtes en première ligne. Rassurez-le. Vous savoir heureux ensemble m'aide bien plus que s'il était écrasé sous la charge avec moi. » Gabrielle n'ose pas le regarder en face, mais elle doit lui poser la question. « Vous allez vous en sortir ?»« Je l'espère. » »« Quand vous n'êtes pas là, avoue-t-elle, ce n'est pas pareil. On est tous un peu perdus. Pierre et moi parlons beaucoup de vous. Nous arrivons à occuper Henri, mais Conrad est taciturne. Vous me manquez aussi beaucoup. » À l'horizon, une traînée de poussière attire l'attention de Vincent. Un cavalier approche, lancé au galop. Peut-être ne fera-t-il que passer pour continuer son chemin vers l'ouest, mais son instinct lui souffle autre chose. Vincent distingue de mieux en mieux l'homme qui mène sa monture à bride abattue. Il porte un long manteau de cocher et leur chapeau caractéristique. Cavel se redresse, les yeux fixés sur le nouvel arrivant. Gabriel l'aperçoit à son tour. Allez-vous déjà devoir repartir ? Possible. Le cocher s'engage dans le camp et remonte entre les tables en ralentissant à peine, juste le temps de héler au passage Victor, qui lui indique du doigt leur direction. Arrivé au pied du talus, le cavalier saute de son cheval et grimpe jusqu'au sommet. Le visage poussiéreux, il s'essuie le front du bras et déclare essoufflé : Monsieur Dinson m'envoie vous chercher. Que se passe-t-il ? L'homme jette un œil vers Gabriel. Vous pouvez parler, le rassure Cavel. Des hommes font des travaux dans la maison de la rue de Montmorency, et ils s'activent aussi autour de la bouche d'égout par laquelle vous êtes descendu l'autre soir. Vincent bondit sur ses pieds. Crénom, ils vont essayer de forcer le tunnel. Je dois vous ramener à Paris de toute urgence. Vincent se tourne vers la jeune femme et lui saisit les mains avec douceur. Il faut que je parte, Gabriel. Mais avant, j'ai besoin de vous demander votre aide. Si je peux, saluez mon frère et mes amis, sans les alarmer. Dites-leur que je n'ai pas pu rester, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils continuent à vivre. Prenez soin de ma famille comme vous le faisiez dans notre maison. Vous avez aussi ce talent-là. Votre drôle de famille. Vous en faites désormais partie. Comptez sur moi. Il brûle de prendre la jeune femme dans ses bras, mais se ravise. Dites à Pierre que je reviens toujours. Vincent ramasse les carnets et dévale le talus en compagnie du messager. L'homme grimpe prestement en selle et l'aide à monter en croupe. Vincent adresse un signe à Gabriel, qui le regarde s'éloigner jusqu'à ce que les deux hommes se confondent avec la poussière qu'ils soulèvent.